Le Club de Tamani.
Le Club de Tamani.
Votre émission de tous les vendredis soirs sur Studio Tamani.
La culture.
Le sport.
La musique.
Les infos.
L'émission qui vous informe, cultive et divertit.
Fidèles auditeurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous culturel sur Studio Tamani. Redonner une seconde vie à certaines œuvres dans les réserves du Musée national du Mali, c'est l'ambition d'une initiative lancée par le ministère de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. Le vernissage de cette exposition intitulée Tegeno ou l'empreinte s'est déroulé hier jeudi 2 juillet 2026 au Musée national. Pour ce projet, le choix s'est porté sur l'artiste plasticien M. Abdoul Wolegem. Comment l'artiste s'est-il approprié ce patrimoine pour raconter l'histoire du Mali? Quels sont les aspects de la culture mis en avant pour cette exposition? Quelles sont les pièces sorties de l'ombre? Abdou Wolegem est notre invité ce soir. Il nous dira comment tout cela s'est matérialisé. Au programme de ce numéro, vos rubriques Tant Chéri seront bien évidemment au rendez-vous. À la présentation, les duos de choc Lala Diarra Touré et Seta Diarra. De l'autre côté de la baie vitrée, Mamadou Ouattara, il assure la mise en onde. Merci pour votre constante fidélité. La belle Aïcha, bonsoir.
Bonsoir, la rayonnante, comment ça va?
On est en train de se sucrer par ici, hein, fidèles auditeurs. Ne croyez pas en ce que vous entendez, hein.
Croyez.
Nous ne sommes ni beaux, ni belles ici. Alors, comment vas-tu?
Je vais bien,
et toi? Et ce week-end, tu prévois de faire quoi?
Notre invité aujourd'hui, c'est Wolegem. Mm-hmm. Nous allons voir l'exposition.
Et bien, il faut juste préciser que ce n'est pas encore ouvert au grand public, mais peut-être que...
Mais voilà. J'ai hâte, hein.
N'est-ce pas?
Ouais.
On verra bien, on verra.
D'accord.
Alors, Aïcha, je te propose qu'on en musique.
Et oui, Lala, pour cette première sélection, nous allons écouter Black Adé, un jeune talent, Lala, qui à travers son art porte haut les couleurs du Mali.
Absolument, Aïcha. Et le titre que nous allons écouter s'intitule Maliba. De retour dans ces studios, nous venons d'écouter à l'instant Black Adé. Elle chantait le Mali sur les platines de Mamadou Ouattara Aïcha.
Eh oui, Lala, c'est ce qui va nous conduire à la revue de la presse.
La revue de la presse.
Et nous sommes très ravis de recevoir Moussa Mali Sissoko comme tous les vendredis. Moussa Mali, bonsoir.
Bonsoir les charmantes dames de Studio Tamani.
Alors, l'interdiction de circulation des véhicules sans plaque a dominé les journaux cette semaine.
Effectivement, Lala Diarra Touré, des véhicules dépourvus de plaques d'immatriculation ne sont plus autorisés à circuler au Mali. L'annonce a été faite ce mardi 30 juin par le ministre de l'économie et des finances, Alousseni Sanou. L'objectif, c'est selon le site Mali Actu, consiste à faciliter l'identification des véhicules en circulation. Il réduira également l'usage d'engins non identifiés dans des actes criminels, en complément à d'autres mesures de sécurité prises ces dernières semaines, a écrit Mali Actu. Après avoir lancé une vaste opération d'immatriculation des engins à 2 et à 3 roues, les autorités maliennes élargissent leur dispositif de contrôle aux véhicules automobiles, rapporte l'Indépendant. Ce côté quotidien privé souligne que cette mesure s'inscrit dans la continuité de cette initiative pour renforcer la traçabilité des moyens de transport. Selon le site Malico News, l'État met en place, en vue d'accompagner cette réforme, un dispositif exceptionnel de facilitation destiné aux propriétaires de véhicules non immatriculés. Un délai d'un an est accordé aux propriétaires de véhicules dont la valeur en douane n'excède pas 30 millions de francs CFA pour accomplir les formalités de régulation. Par ailleurs, poursuit Malico News, les détenteurs de véhicules ayant déjà acquitté de leur leurs droits de douane bénéficieront pendant une période de 6 mois d'une exonération des frais de timbre et d'enregistrement. Sur le terrain, les véhicules sans plaque d'immatriculation représentent un véritable danger. En cas d'accident ou infraction, leur identification est particulièrement difficile, déplore le quotidien numérique Mali 24. De son côté, le Soir de Bamako prévient que cette mesure va avoir des conséquences budgétaires avant d'ajouter que le plus important pour le gouvernement est qu'elle facilite la vie des citoyens, a laissé entendre le Soir de Bamako. La croisade lancée s'exclame Info Matin à la première page. Encore prévient ce quotidien privé une nouvelle mesure contre l'insécurité, une mesure dont l'efficacité dépendra de son application. Dans sa parution du 2 juillet, le journal rappelle que des mesures similaires ont été prises en 2015 après l'attaque terroriste du restaurant La Terrasse et celle du camp Firoun de Gao, rappelle le journal. Demeuré un simple communiqué, cette décision n'a jamais eu un lendemain, regrette Info Matin. C'est ce qui met fin à cette page consacrée à la revue de la presse de cette semaine. Lala Diaratou.
Merci beaucoup, Moussa Malé Sissoko, pour cette page bien fournie de l'actualité de la semaine. Et nous te retrouverons au cours de cette émission pour la version en langue nationale. Bamanankan. Et à présent, Aïcha.
Maintenant, Lala, place à la rubrique coulisses de l'info.
Les coulisses de l'info.
La rubrique éducation aux médias d'aujourd'hui, Lala, nous conduit dans la région des Kaya où une vingtaine de femmes journalistes et communicatrices ont bénéficié d'une formation sur l'éducation aux médias, à l'information et au numérique.
Effectivement, Aïcha, c'était la semaine dernière. Elle a été organisée par l'Institut pour la démocratie et l'éducation aux médias, IDEM, avec l'appui de l'UNESCO et d'autres partenaires. Et le but était de renforcer leurs capacités face à la désinformation. Et à l'issue de l'atelier, des participantes se disent prêtes à faire face aux défis de la désinformation, Aïcha.
Et oui, Lala, écoutons quelques-unes au micro de notre correspondant, Mahamadou Samba Diallo.
Je m'appelle Assa Koulibaly, journaliste à la radio La Caïsienne. Au cours de cette formation, j'ai appris à mieux identifier les fausses informations, à vérifier les sources et à utiliser les outils de vérification numérique. J'ai également compris l'importance de l'éducation aux médias pour lutter contre la désinformation. Je vais mettre en pratique ces connaissances dans mon travail de journaliste de chaque jour, en vérifiant davantage les informations avant leur diffusion. Je compte aussi sensibiliser les publics, surtout les jeunes et les femmes, à l'importance de vérifier les informations avant de les partager. La femme a un rôle très important dans notre société, comme vous le savez, en tant que mère éducatrice, journaliste, communicatrice, elle peut transmettre des bonnes pratiques autour de l'utilisation des médias. Elle peut sensibiliser sa famille, son mari, ses enfants et surtout contribuer à limiter la propagation de fausses informations.
Je m'appelle Soussaba Sissoko, je suis reporter au sein du groupe Média Cahiers Info. Au cours de cette formation-là, j'ai appris à vérifier les sources et à utiliser les outils de checking et à adopter les bonnes pratiques en matière d'éducation aux médias et à l'information. Je compte partager ces connaissances avec mes collègues, bien sûr, les jeunes et les femmes de ma communauté, mais aussi les appliquer dans mon travail de journaliste afin de diffuser les informations fiables. La femme joue un rôle essentiel en tant que mère, éducatrice et leader communautaire aussi, journaliste, on peut dire ça. Elle peut sensibiliser son entourage, apprendre aux jeunes à vérifier les informations et contribuer à limiter la propagation des fausses nouvelles. Bon, cette formation m'a beaucoup renforcée, je peux le dire. Personne n'est totalement à l'abri, mais aujourd'hui, je dispose des outils nécessaires pour éviter les pièges de la désinformation.
Et voilà, c'était là Aïcha, quelques femmes journalistes et communicatrices qui ont bénéficié d'une formation sur l'éducation aux médias dans la région de Kaï.
Absolument. Maintenant, place à l'invité culture.
L'invité culture.
Et nous recevons avec tous les honneurs celui-là même qui a donné une seconde vie à des œuvres multiséculaires. Il s'agit bien sûr de Monsieur Abdoul Ouleghem. Monsieur, bonsoir.
Bonsoir.
Vous allez bien ?
Je vais très bien.
Nous vous recevons pour la seconde fois.
Pour la seconde fois, oui.
C'est avec grand plaisir en tout cas.
Alors, Monsieur Ouleghem, Téguénon, l'empreinte, parlons-en. D'où vient l'inspiration ?
L'inspiration Téguénon ? Écoute, ça vient de loin. Le ministre de la Culture, Mahmoud Affé, m'avait confié une exposition à faire au Musée national, qui était sur l'âge d'or du Mali. Et après cette expo, les gens ont beaucoup aimé l'expo. Donc en même temps, il était dans la pensée de revitaliser le musée, parce que le Musée national est un lieu quand même où il y a la mémoire de notre passé. Et il m'a dit, monsieur Ologem, par décret, je veux que tu rentres dans le musée et que tu nous sortes ce qui est dans la réserve, voir ce que tu peux en faire. Donc c'est une grande opportunité pour moi et une chance pour moi aussi, en tant qu'artiste, de m'amuser avec des objets archéologiques. Vous n'avez aucune idée de ce qu'il y a dans ce musée-là, dans les réserves. Il y a le travail sur le bois surtout. Donc quand on a parlé de cette expo, on m'a demandé la thématique. J'ai dit au ministre, moi je ne tourne pas autour du pot, on prend Téganon. Téganon qui veut dire l'empreinte. Qu'est-ce que nos ancêtres ont fait comme travail, comme savoir-faire? Ils ont travaillé l'or, ils ont travaillé le bois, ils ont travaillé le cuir. Ils ont travaillé le fil et aujourd'hui on a besoin de ça pour avancer. Et Téganon vient de là. L'inspiration vient tout simplement de là.
Et cette empreinte, j'ai envie de dire qu'elle est indélébile. Hein. Vous avez travaillé à partir des collections du musée, vous venez de le souligner à l'instant. Comment est-ce que vous avez fait le choix entre les œuvres d'art à votre disposition?
Le choix, parce qu'au musée il y a plusieurs réserves, archéo, textile. J'ai vu, c'est des réserves dans lesquelles les objets sont bien conservés. Et j'ai commencé par quoi? Quelqu'un me dit, il y a le goni de Basmana. Je me dis, waouh! Je me dis, il le faut. Et c'est le premier objet que j'ai touché dans ma main. Parce qu'il faut partir de quelque chose. Et quand j'ai vu le goni de Basmana, je me dis, comment est-ce qu'il faut le faire revivre? À un moment, j'ai pensé à une vidéoprojection. J'ai pensé à un truc, mais je me dis, une simple photo suffit. Donc, Tigani, qui est à la maison de la photographie, je lui ai parlé de ça. Il a cherché une photo de Basmana, il l'a bien imprimée, il me l'a envoyée au musée. Et le coup est parti. Basmanaba était là, et donc le choix, à partir de Basmanaba qui joue la musique, Basmanaba pour moi c'est une référence. En écoutant Basmanaba, même si je ferme les yeux, je vois tout le Mali. Donc à partir de Basmanaba, j'ai touché à une pirogue, parce que j'ai vu qu'au musée, il y a des pirogues. Et ça m'a inspiré, je me dis, le fleuve Niger est dans l'agonie. Et du coup, ça m'a donné une idée, je me dis, il faut défendre l'environnement, il faut défendre le fleuve Niger. Donc j'ai attrapé la pirogue, il y avait des poissons, au musée, il y a des poissons qui sont conservés dans du formol. Donc tout ça, le fait de voir tous ces éléments, ça m'a inspiré. Donc du coup, c'est parti de là. Un mot, tu es dans la réserve, tu tournes, tu tombes sur un tambour, tu tombes sur un tapis, tu tombes sur un objet qui date de longtemps et ça fait plaisir.
De fil en aiguille, l'expo est née.
Ça n'a pas été facile, de fil en aiguille. Je dors dans le musée, je passe des nuits blanches. Il y a des jours où je fais 48 heures sans dormir.
Ça n'a pas été facile
parce que je me laisse inspirer. Je me laisse... Souvent, ce n'est pas facile de travailler au Mali parce que les gens ne comprennent pas le sens de l'art. Donc du coup, à tout moment, tu es perturbé. Or, moi, souvent, c'est des trucs qui me dérangent.
Tu es plongé dans l'inspiration.
Quand je suis inspiré, personne ne m'arrête. Dire que je crée, ce serait trop dire. Pour moi, la création appartient au créateur.
Maître des cieux et de la terre.
Voilà.
Alors, quel a été, Monsieur Ologem, le plus grand défi technique ou même émotionnel en manipulant ce patrimoine?
Le plus grand défi, c'est quoi? C'est que les objets du musée, tu es obligé de porter des gants. Certains objets, tu ne peux pas les toucher pour ne pas gâter la datation ou bien pour ne pas gâter le tissu. Tu es obligé de porter des gants pour ne pas infecter le tissu. Ça, c'était un problème pour moi. Pour moi qui aime m'amuser, prendre les choses, les jeter comme je veux. Mais sauf qu'au musée, il y avait un jeune Traoré qui travaille dans la réserve. Et ce jeune Traoré, franchement, il m'a aidé. Je peux dire que c'est la personne qui a été là pour moi 24 heures sur 24 heures. Il me dit, Ologem, même si tu me dis de venir le week-end, je viendrai. Même si je dois dormir avec toi au musée, je dormirai. Parce que ce gars, il a compris le sens de l'art, de ce que je voulais faire. Donc je rentre dans la réserve, je vois un objet, je dis, tu me sors ça. Donc c'est la somme des objets souvent qui m'inspire à aller très loin, même les poteries, par exemple, au niveau de la terre cuite.
Alors, merci déjà pour ces premières réponses, Monsieur Ologem. Nous allons marquer une petite pause musicale.
Et oui, Lala, et cette fois-ci, nous allons savourer Simbo, et c'est signé à Samba Ousou. Thank you.
sokoroka so sayiri ko barika ngi barika samba sokola barika barika malle sokola barika abarika tanje sokola barika ababaka babulo kola barika abarika ambele kola barika abarika dako yiri la barika abarika namulo yiri la barika nyama sanonga so sayiri ko barika fatuma kamo mine wara wulela tobe sokova koma sabulo ama yedrisa sanuno ko jamma
Si vous venez de prendre le train en marche, sachez que vous suivez l'émission Culture de Studio Tamani, le club de Tamani, et nous venons d'écouter à l'instant les titres Simbo de Samba Ousou Aïseta.
Alors, M. Wolagem, si vous deviez résumer l'empreinte que vous laissez sur ces œuvres en une seule phrase, ça serait laquelle ?
La mémoire malienne. La mémoire du passé. Parce qu'on n'a pas la mémoire de notre histoire. Et ces objets représentent la mémoire du passé. Des vieux moments ont tissé, des gens ont dessiné des peintures rupestres, des gens ont sculpté. Tout ce travail qui a été fait, pour moi, c'est ça qui est là. C'est la mémoire de notre passé. Et on a besoin de ça. J'ai un grand frère qui est en Espagne, Ousmane Diaya Hydra. C'est l'un des plus grands historiens du Mali. Un jour, il m'a dit, celui qui oublie son passé n'a pas de présent. Celui qui n'a pas de présent n'aura pas d'avenir.
Difficile.
Et au musée, on a l'empreinte de notre passé. Ça nous permet de nous connaître nous-mêmes, de savoir qui on est, de savoir ce qu'on a fait comme travail. Et c'est ça qui développe. Pour moi, la liberté, c'est le travail. Et aujourd'hui, j'ai comme l'impression qu'on a baissé les bras. Quand je vois tous ces belles objets qui sont dans le musée, dire que voilà, nous, on est là, on a plus ce savoir-faire. Aujourd'hui, on est habillé en Shintok, on est habillé avec Nike, avec Reebok, mais nous-mêmes, on ne se propose pas aux autres. Ouais. Vous avez vu les chaises qui ont été restaurées, comme elles sont belles.
Surtout, c'est le Mali dans son entièreté. Hein. Les œuvres viennent un peu de partout.
Un peu de partout. Mm-hmm. C'est la zone, dans un musée, il y a même des chaises qui viennent de la Côte d'Ivoire. Il y a une chaise qui vient de la Côte d'Ivoire. C'est l'histoire malienne, c'est l'histoire, c'est la terre. Parce que la terre nous a tout donné. Et c'est la terre qui va tout prendre. C'est pour ça qu'au bon milieu de la salle, j'ai implanté cette montagne d'archéologie. Voilà.
Alors, quel regard souhaiteriez-vous que le public porte sur ces œuvres? Si jamais les portes sont ouvertes.
Je crois que j'aimerais que le public se pose des questions sur nous-mêmes. Parce que. Je parle d'empreinte, je ne parle pas de savoir parler, c'est de savoir-faire. Et c'est ça qui manque aux Maliens. Mmh. Et ce savoir-faire est au musée, il dort là-bas. Donc le musée est le lieu aussi pour tout le monde d'aller apprendre quelque chose, d'aller vers une connaissance. Au niveau textile, on a vu des textiles qui datent du 11e siècle.
Et la finesse, elle est impressionnante.
Et les couleurs sont intactes. Mmh. Au niveau de l'or, on a travaillé l'or. On a eu des bijoutiers ici qui ont travaillé l'or sous toutes ses formes. On le retrouve au musée. Les boucles d'oreilles, la broderie à la main, imaginez-vous. Il faut une année pour finir une broderie. Aujourd'hui, c'est la machine, et c'est fini. Ça n'a même pas d'âme. Et ce savoir-faire de la broderie à la main, pour moi, c'est...
L'artisanat du Nord.
C'est quelque chose qu'on peut vendre à coups de millions à travers le monde. Parce que c'est un travail qui a été fait à la main. Si on se réfère aux Italiens qui vendent des vestes à 5 000 euros, 10 000 euros, des pièces uniques cousues à la main. Parce qu'ils le font aussi, il y a des vestes qui sont cousues complètement à la main. Ouais. Et nous, on a ce savoir-faire aussi. Donc, il est temps pour nous de penser à nous-mêmes dans le sens du savoir et qu'on se réveille, qu'on sorte de ce chaos qui ne mène à rien. Oui. On a une mémoire, allons vers notre mémoire, allons vers le musée. Il faut que la porte du musée aussi soit ouverte au public malien pour qu'ils sachent c'est quoi au musée. Si tu demandes à beaucoup de gens, le musée, c'est un lieu où on garde des masques, des trucs. Il n'y a pas que ça. Voilà, il y a beaucoup de choses. Que le public se pose des questions sur nous-mêmes.
Mm-hmm. Alors, Monsieur Wolagem, avant cette exposition, vous avez aussi clôturé l'année de la culture par l'âge d'or, une exposition qui a fait sensation. En quelques mots, comment s'est passée cette activité?
L'âge d'or aussi est sorti d'une discussion avec Monsieur le ministre. On a échangé, il me dit, Wolagem, qu'est-ce que tu me proposes? Il faut que tu fasses quelque chose pour clôturer l'année de la culture. Il me dit qu'il faut qu'on parle du Mali. Il m'a dit l'âge d'or du Mali. J'ai dit, ok, c'est intéressant l'âge d'or du Mali. Mm-hmm. Parce que l'âge d'or du Mali, c'est l'âge d'or d'un pays, c'est quoi? C'est le moment où le pays a connu le prestige. Et nous, c'est le 14e siècle. Sous Kanko Moussa, on était au centre du monde. On avait de l'or, on avait de la soie, on avait tout. Et nous avons écrit la première constitution au monde. Quand on dit Mandinka et Malinké, Malinké, c'est une ethnie. Mais quand on dit Mandinka, même le Tamashek qui est dans le désert est Mandinka, parce que l'empire Mandinka s'étendait jusqu'au lac Tchad. Donc dans l'âge d'or, il y a tout ça qui ressort. C'est notre histoire, c'est notre prestige. Il y avait le palais royal de Kanko Moussa, il y avait des reines, il y avait le sel gemme de Tombouctou, la première richesse du Mali, qui est plus importante que l'or, parce que le sel se consomme tous les jours. Donc, Parler de l'âge d'or, c'est, ça va me prendre beaucoup de temps, mais en un mot, c'est pour montrer aux Africains qu'on a eu le prestige à un moment et on est un peuple d'empire. Kankou Moussa, qui a fait ce voyage à la Mecque, beaucoup de gens l'accusent, mais Kankou Moussa, c'est le plus grand diplomate de l'histoire africaine. Au moment où il partait à la Mecque avec l'or malien, arrivé en Arabie, à la Mecque, les poètes arabes ont écrit l'année de la pluie de l'or. C'est pour te dire, Kankou Moussa, avec sa largesse, avec sa générosité en or, a fait chuter le cours mondial de l'or, parce qu'on en avait de l'or à l'époque. À la Mecque, ils n'avaient rien. Et pour un petit exemple, il y a un homme qui est venu visiter l'Expo. Il a étudié à Médine. Il me dit que l'année où Moussa Traoré est parti à la Mecque, il était là-bas. Et le prince de l'Arabie Saoudite, le président Moussa Traoré, il est parti en Arabie Saoudite. Mmh. Et on a eu un cadeau à l'honneur de Mansa Moussa. Wow. Parce que le roi de l'Arabie Saoudite a dit, on est reconnaissant envers le Mali, parce que dans le passé, il y a eu un empereur qui nous a gâtés en or. Mmh. Et en échange, on vous offre un pont.
Wow.
Et ce pont devrait être l'un des plus beaux ponts du Mali. C'était pas le pont du roi, parce que... Et après, j'ai eu un garde aussi qui m'a fait un témoignage. Le garde qui accompagnait Moussa Traoré pendant son procès.
Mm-hmm.
Il est venu à l'Expo. Quand je lui ai parlé de ça, il me dit, « Wologem, maintenant, comment le fier ?» Moussa Traoré, là, c'est moi qui l'accompagnais, voilà, au palais pour le jugement. Quand on est arrivé au niveau du pont, il a mis sa main sur moi, il m'a dit, « Tu vois ce pont-là, ça devrait être l'un des meilleurs ponts de l'Afrique de l'Ouest. » Parce que ça a été donné à l'honneur de Mansa Moussa. Et Mansa Moussa, quand il est rentré de la Mecque, c'est lui l'architecte, c'est lui qui est venu avec des savants. Il est venu avec des architectes. Et Saïli était son vizir à Tombouctou. La mosquée de Dingaribert, 250 kilos d'or pour l'architecte qui l'a construit.
Et le pont à l'honneur de Mansa Moussa, c'est lequel des trois?
Le pont, c'est le pont Fad.
Le pont
que les Maliens même ont dit que c'est le pont Fad, mais ça nous a été donné en reconnaissance du passé.
Ah,
c'est
okay.
Pour dire que le Mali, on a une histoire
mm-hmm.
et on doit la creuser. La butte de terre, c'est pour dire aux Maliens, creusons notre histoire.
Elle est enfouie sous terre. Merci beaucoup, monsieur Wologem, pour toutes ces précisions. Mais vous restez avec nous, car l'émission n'est pas encore finie.
Et oui, Lala, nous empruntons le chemin des stades.
Bienvenue au Sportif Maison Khalifa Goïta, bonsoir.
Bonsoir, Lala Touré.
Comment vas-tu?
Tout va bien.
Alors, qu'est-ce que nous avons au menu de l'actualité sportive cette semaine?
Éliminatoire championnat du monde de basketball 2027. Les Aigles du Mali poursuivent l'ère sans faute en football. Le Maroc, seul pays africain qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde pour le moment. Et puis, le nouveau sélectionneur des Aigles du Mali est arrivé ce jeudi à Bamako.
Commençons par le basketball. Les Aigles du Mali ont bien entamé les éliminatoires de la Coupe du Monde du côté de l'Angola.
Tout à fait, le Mali s'est imposé 78-70 face à l'Égypte pour son premier match de la troisième fenêtre des éliminatoires en Angola qualificative pour la Coupe du Monde de basketball Qatar 2027. Un succès précieux qui rapproche encore plus les Aigles du second tour et leur permet de poursuivre leur excellente dynamique. Le Mali jouera ce samedi contre l'Ouganda pour sa deuxième sortie à partir de 15h avant de se mesurer à l'Angola le lendemain 5 juillet à 18h.
L'actualité, c'est aussi les 16e de finale de la Coupe du Monde Khalifa, plusieurs équipes africaines éliminées de la compétition.
Oui, fin de parcours pour certaines d'entre elles, notamment l'Afrique du Sud sortie par le Canada sur le score d'un but à zéro. La Côte d'Ivoire a été éliminée par la Norvège 1-2. La République démocratique du Congo a échoué face à l'Angleterre 2-1 et le Sénégal également tombé devant la Belgique 3-2. L'Algérie n'a pas pu résister face à la Suisse. Elle a été battue 2-0. À ce stade, le Maroc est le seul pays à s'être tiré d'affaire en éliminant les Pays-Bas au tir au but. Les yeux sont à présent rivés sur l'Égypte, le Cap-Vert et le Ghana, les trois derniers représentants à jouer les 16e de finale aujourd'hui.
Alors, Khalifa, un mot sur le nouveau sélectionneur des Aigles du Mali.
Le nouveau sélectionneur des Aigles, Anthony Da Silva, est arrivé ce jeudi 2 juillet à Bamako pour sa prise de fonction. Retenu parmi une liste de 5 prétendants, la FEMAFOOT assigne à Da Silva des grands objectifs pour l'équipe nationale et le football malien en général. Et pour cela, le nouveau coach des Aigles est tenu de s'installer à Bamako. Et pendant ce temps, la fédération s'est séparée emparé du sélectionneur national adjoint Aliou Badra Diallo Di Conti. Il assurait l'intérim de l'équipe depuis le départ de l'ancien sélectionneur Tom Saint-Fit. C'est tout pour aujourd'hui, Lala Touré.
Merci beaucoup, Khalifa Goïta, pour cette page bien fournie de l'actualité sportive. Et nous te souhaitons bon week-end en musique. Aïcha.
Et oui, Lala, fait Toumani Diabaté et Ali Farka Touré qui vont nous faire voyager loin.
Ali Farka Touré et Toumani Diabaté à l'instant, Aïcha, comme tu l'as prédit, le voyage était sensationnel.
Ah oui,
mais malheureusement, nous sommes déjà de retour. Et nous accueillons pour la seconde fois Moussa Mali Sissoko pour la revue de la presse, cette fois-ci en langue nationale, Bamanankan.
La revue de la presse.
Moussa Mali, bismillah.
Ma.
Alors Moussa Mali, plaquete moulu menouna ou lo bolili ko dansegera ou la kuna fondila ou kumana ou rekan kosoven drokwina.
Tiens, doa isata djera, moubili mounou be ni plaquetou la ou lo bolili ou tete dagatouni Mali konnana. Ou kuna fondira, juin kalot le bisaba temene, bataki do konnana. Mali soroko ani amusakako ministri fe, alusene sanu. Mali atu ale konia irakafo koni mhakilna indabora. Wala sa bolma fin 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 be. Ni inafo mobili oluka tamasero ukaseka don wafene ko ni mobili uyera wale jugu dola abiseka don maminta don ka frala kana fere were uka mali aktu ka fola lendepana ale koko jamana nyema ukelen koka bolma fin senfla ani sen saba koluka plakiko usigi senka nize na ku usera mobili udema ka olufene ka sekesekeli fere uboloda ni kuna fondi sebe nka fola Nintarakabla, Minami Konana, Ode, Jamana Nyema Ube Feka, Bolmafon, Bella Jelen Jatemine, Jamana Konana. Kunafondi seven Beboloka, Nukamako Maliko News, Ale Koko, Walasa Niferen Kaseka Walia, Ko Jamana Nyema Uye, Nuradake, Mobilu Tuguye, Olumunu, Kaplakiko, Siglente Senka. Ko Sankele Ukelembeko di Mobili Tuguma Munu ka mobili de Dwayma Ote Teme million bisabakan. Munuka mobilu bubolo nue de dwayma ko yenaboka pa, ko kaloro direndo. Luma ani noya dawero wala sa ukaseka uka plakiko sigi 5 ans mali 24 akoko ni plakite mobile la o boli circulation ako farati bare bala nakira sababu ye kasira bagan kasara doke walma sharia soso akagle ka mobile la kodon naobla amantege don soir de bamako konnana ni feremi sigira 5 ans ko musaka ko o manro nga ko udalembala kafo ko jamana nyema ubunu hakilto wala sa mauka seka ni wobara nunke nroya kononana. Enfo maten ale koko ni bara inkoni ka adamne na. Abeka aire nyinga ka iraka foko ni fere mintara lakana balia kama. Ko bara inyani odlonembe ala wali alidela. Ko sabula ni fere nyona nunu tara kateme. Samba fla anitani duru wati la wati mina faria wale utara bin restaurant la teraskan. Fokata se bingani wale mintara kagawo kansegere. Ko batakit bora ko ni sharia munutara awatila asima sirasoro anyo samaka bo info matin konnana ni debe dansi yanga bi revue de la presse la
sisoro enite adiera am kambe danyo ko ni doko kunere ni ala manga jona jona
adiera nda wono
e aisha nous voilà à la fin de cette émission. Mais carte blanche pour l'invité. Un message à faire passer, un appel aux autorités.
Un appel aux autorités. Le musée est le temple de notre mémoire. Et il est temps qu'au plus haut niveau, ils mettent. Beaucoup de gens parlent de l'industrie culturelle au Mali. Ça commence au musée national, parce que c'est la mémoire de notre histoire. Tout le Mali est représenté au musée. Et les enfants doivent aller au musée aussi.
Merci beaucoup. Ouais, merci. Et c'est sur ce cri des cœurs que va s'achever cette émission. Merci à vous, fidèles auditeurs, d'avoir prêté oreille attentive à la présentation. Il y avait Aïssata Diarra et Lala Diarra Touré. Sekou Gadigo a conduit l'équipe de réalisation. Mamadou Ouattara était à la technique. Prenez soin de vous et des autres. Et à très vite pour un autre numéro du Club de Tamani.